Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Trésors en poche d'Anne Brassier. Émission préenregistrée le 11 mai 2012. Diffusée pour la première fois jeudi 17 mai 2012 de 10h45 à 11h45. Elle est réalisée par Jean-Édouard.
Bonjour chers auditeurs. Ce jeudi de l'Ascension, nous avons enregistré l'émission et nous l'avons enregistré avec deux personnes, Louis Hubert Rémy et Thierry Martin, et qui viennent ce matin nous présenter un très beau livre qui s'appelle « La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc », sous-titré « Jésus-Christ, roi de France », et c'est publié par les Amis du Christ, roi de France, avec une magnifique couverture, une France couverte de fleurs de lys sur fond bleu, et une très jolie statue de Jeanne. Et maintenant, je vous fais entendre une trouvaille très ancienne. Voilà, j'aime beaucoup cet air, sonner fanfare triomphante, triomphale, en un temps où on entend ici et là l'international, je crois qu'il est urgent de faire résonner nos fanfares à nous, sous peine d'être éliminés de la surface du globe. J'ai la joie de recevoir donc Louis Hubert Rémy et Thierry Martin, que j'ai entendu chez mon ami Benoît Mancheron mercredi dernier. Et donc, j'ai été très intéressée par cette émission. Je l'en remercie et je me suis dit qu'il fallait que je, à mon tour, je vous reçoive pour en savoir plus. Alors, d'abord, qui êtes-vous tous les deux, Monsieur Rémy et Thierry Martin? Cette association, oui. Les Amis du Christ Roi.
Voilà. Alors donc, j'ai des 70 ans, bien, et je combats depuis l'âge de 20 ans.
Bon. Visiblement, ça vous réussit très bien.
Oui, ça se passe très très bien. On passe par des moments difficiles, des grosses attaques, beaucoup d'ennemis, mais ça fait partie du lot du chrétien. Bien, pour la défense de la vérité et de la foi. J'ai créé une association qui s'appelle Les Amis du Christ Roi de France parce que très jeune, j'ai compris que c'était la seule solution au problème de la France. Quand on réfléchit sur Genèse 3:15, on se rend compte que à la fin, donc au moment où nos premiers parents ont été chassés du paradis terrestre, il n'y a que deux camps. Le camp de celle qui va écraser la tête du serpent et le camp du serpent. Et ces deux camps, comme dit la jeunesse, sont d'une inimitié complète. Il n'y a aucune possibilité donc d'accord oui. entre
pas,
les deux.
Pas d'œcuménisme.
Pas d'œcuménisme, d'accord. Et Saint-Luméride Grignon de Montfort ira même tellement loin qu'il sera obligé d'expliquer la vraie dévotion à la Sainte Vierge, c'est-à-dire le vrai camp de la très Sainte Vierge Marie. Et dès le début donc de son traité sur la vraie dévotion, il citera les 7 fausses dévotions qui font que beaucoup de gens se croient du camp de la très Sainte Vierge et n'en sont pas. Ce qui est dramatique pour nous. Et donc, ce camp est très précis, a vécu depuis donc 2000 ans avec les mêmes critères, avec la même foi, les mêmes sacrements, et donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a d'énormes problèmes. Le bon Dieu, pour aider donc cette société chrétienne qu'il a installée, a fait un prototype qui s'est fait en France, donc à partir de Noël 496, et qui a duré 1300 ans. Ce qui montre que si Dieu crée quelque chose qui dure 1300 ans, on doit le regarder à la loupe et voir comment les choses se passent. Et tout ça nous amène bien sûr directement à Jeanne d'Arc, hein, puisque comme je l'ai expliqué dans l'émission de Benoît Mancheron, deux fois simplement dans l'histoire que de France, il y aura eu un problème. La première fois quand donc a été créée la monarchie française, elle a été créée sur le miracle de Tolbiac. Donc j'ai expliqué l'histoire du miracle de Tolbiac et comment les choses se sont passées.
Oui, ça, redites-le-nous, parce que vous savez, les auditeurs ne sont pas tous les matins à 11h moins le quart en train d'écouter.
D'accord. Alors c'est très important et très intéressant parce que...
J'ai été très impressionné par votre récit du miracle de Tolbiac.
Voilà. Alors, Clovis avait fait la guerre toute sa vie. C'était le fils de Mérové. Mérové avait été un guerrier extraordinaire qui avait donc protégé la France et protégé déjà la chrétienté. Et Saint-Remy, qui pendant 25 ans va prier dans la grotte qui est sous la cathédrale de Reims, dans laquelle nous avons pu prier en 496 avec une centaine d'amis.
En
1996, pardon. Oui, donc voilà. Donc Saint-Remy.
Je vous vois jeune et éternel. Mais...
voilà. Et donc
là, vous auriez fait un pacte avec Faust.
Voilà, tout à fait. Et donc Saint-Remy s'est rendu compte que le fils de Mérové pouvait être quelqu'un d'assez exceptionnel à l'époque où il y avait des tas de chefs de bande. Il a marié cet homme. Qui était un bandit, qui était une chef de bande, avec une jeune fille d'une délicatesse extraordinaire qui s'appelle Clotilde. Cette Clotilde, qui était de grande beauté, a rendu tout de suite amoureux Clovis, et malgré les épreuves, a réussi, donc, la première épreuve, ça a été donc la mort de son fils aîné, qui a été un drame, et le deuxième qui a failli mourir et qui a été sauvé miraculeusement. Et elle avait donc une emprise sur ce roi barbare, de telle sorte que Clovis en était complètement subjugué. Et arrive donc le jour de Tolbiac, où là, Clovis, qui avait fait la guerre toute sa vie, s'est rendu compte qu'il perdait la guerre complètement, que les Allemands allaient gagner donc cette guerre, et il commence donc à prier ses dieux.
Oui.
Aucun...
Qui ne répondent pas.
À ce moment-là, Aurélien, qui était donc son bras droit, qui avait déjà fait le mariage entre Clovis et Clotilde, lui dit « Prie le dieu de Clotilde ». Et alors à ce moment-là, donc, Clovis lance son fameux cri, quoi, Dieu de Clotilde, hein, donne-moi la victoire, etc. Oui. Et la réaction est très intéressante, parce que les chroniques sont très précises, hein, on a tous les éléments de cela. Hein. J'ai un livre absolument merveilleux sur la question, hein, qui date du 19e siècle, que même le marquis de la Franquée n'avait pas dans sa bibliothèque, c'est pour dire, quoi. Et donc, où tout est raconté dans tous les détails. Et à ce moment-là, le chef ennemi est tué dans la seconde. Et quand le chef ennemi est tué, plus rien ne fonctionne. Tout de suite, les lieutenants, il y en a un qui a dû dire « Allez tous derrière moi », et l'autre qui a dû lui répondre « Mais tu vas pas nous enquiquiner, ça fait 20 ans que tu nous ennuies, et on va pas te suivre, etc. etc. » Et ça a été donc la débâcle entre tous les ennemis, et Clovis a gagné cette victoire. Le lendemain, il était... bien sûr, très conscient du miracle qui s'était accompli, mais gêné devant ses officiers, puisque il devait se convertir, et donc, si le roi se convertissait, toute sa tribu devait se convertir. Oui. Et les officiers lui ont répondu, nous aussi on a vu le miracle et on veut donc prier le dieu de Clotilde. Alors après, donc, il y a eu le catéchisme pendant des mois et des mois. Il y a eu le détail très intéressant la veille du baptême, hein, où notre Seigneur, enfin le bon Dieu est venu lors de la dernière exhortation de Saint-Rémy, le bon Dieu est intervenu en disant la même phrase qu'il a dit le soir de la résurrection. Et qui pour nous est un grand repère. Il lui a dit « La paix soit avec vous, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut apporter la paix. » Et le soir de la résurrection, après donc les 3 jours précédents où tous les apôtres étaient perdus et tout le monde, il y avait les gens qui ont les visions quoi, de Jérusalem au moment de la Passion, il y avait 2 millions de personnes, les enfers étaient déchaînés, c'était terrible. Et au Cénacle, tout allait bien. Bon, cette résurrection sera cachée pendant 40 jours jusqu'à la Pentecôte, le temps que Dieu reforme les apôtres. Et sa première parole est à retenir, et c'est la même qu'il dira à Clovis, « La paix soit avec vous ». Et le bon Dieu rajoute en plus « Soyez dans ma dilection », c'est-à-dire « Soyez dans mon amitié, l'amitié profonde ». Et les amis du Christ-Roi de France rappellent qu'ils sont serviteurs, mais de serviteurs, ils deviennent amis. Et donc l'amitié vis-à-vis de Dieu est quelque chose d'absolument essentiel pour un chrétien. Si le chrétien n'a pas cet amour constant et avec une intensité quoi continuelle, il ne peut pas rester véritablement chrétien. Alors Jeanne viendra rappeler tout ça. Jeanne, comme j'ai dit dans la dernière émission, ne vient que pour une seule chose, expliquer que Charles VII est le fils de Charles VI. Bon, oui. Au traité de Troyes, Isabeau de Bavière avait été donc écoutée et l'enquête avait conclu à une conclusion dramatique, que Charles VII, le dauphin, on l'appelait le pseudo-dauphin, n'était pas le fils de Charles VI. Mais Dieu le savait. Et Dieu le savait et est intervenu donc par une jeune fille qui prend à l'âge de 13 ans. C'est toujours absolument époustouflant de voir combien Dieu se prend les plus grandes saintes. La très sainte Vierge Marie avait 16 ans, donc à la naissance de notre Seigneur. Saint Germain de Pibrac, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des quantités de jeunes, Sainte Bernadette, tout ça, etc.
Cette rencontre entre le dauphin et Jeanne est très très étonnante, en effet. Charles VII est donc devant Jeanne. « Achevez votre message, dit-il à Jeanne. » Noble prince, si je vous révèle les 3 requêtes que vous avez adressées à Dieu le jour de la dernière Toussaint, croirez-vous que Dieu m'envoie ? Oui, répond le roi subjugué. Gentil dauphin, poursuivit-elle, voici la première. Si je ne suis point véritable héritier du royaume de France, faites, ô Seigneur, que je ne sente plus en moi le courage de poursuivre cette campagne. Et ensuite, si les grandes adversités supportées depuis si longtemps par mon pauvre peuple de France proviennent de mes péchés, seul je dois être puni. Faites que je porte entièrement le châtiment de mes fautes, fût-ce la mort elle-même. Enfin, ô mon Dieu, si les péchés de mon peuple lui attirent tant de maux, je vous en conjure, pardonnez à la nation et tirez-la des tribulations qui la désolent depuis 12 ans et plus. » L'inspiré continue ainsi. Oui, Dieu a entendu votre prière et c'est lui qui a dirigé mes pas vers vous. Je ne suis qu'une pauvre fille de village, mais je dois vous révéler les moyens qui m'ont été divinement enseignés afin que vous puissiez mettre vos adversaires hors des frontières et poser sur votre front la couronne de France. Le dauphin, que dois-je faire pour cela ? Gentil dauphin, donnez-moi des armes et des troupes. Ayez confiance, je saurai m'en servir. Donc cette Jeanne est là pour finalement reconnaître Charles VII qui doute,
bien sûr. Et Dieu savait que c'était vrai.
Et donc le premier miracle, c'est que Jeanne connaît les doutes de Charles VII.
Absolument. Ouais. Oui, elle est formée pour ça. Et lui dire maintenant, vous avez le droit au sacre, et avec le sacre, elle insiste terriblement, quoi. Elle dit donc sa mission est d'amener le roi. D'ailleurs, dans l'ouverture du procès de canonisation, la bulle d'ouverture du procès de canonisation, il y a un détail très très important qui devrait attirer l'attention de tous les historiens, où il est dit, et donc c'est écrit par un cardinal au nom de Léon XIII, j'ai malheureusement pas le nom sous les yeux, mais la bulle est très importante. Sa mission était d'amener Charles à Reims, où Jésus-Christ étant déclaré roi de France, Charles recevrait en ses lieux et places les insignes de la royauté. C'est-à-dire que Rome était au courant d'une façon extraordinaire, ce que nous ne savions plus en France. Quoi. Mmh. Oui. Alors donc...
Elle dit, Monseigneur vous dit, tu es vrai héritier de France et fils de roi.
Absolument.
Alors, à partir de cette phrase, vous développez finalement toute une thèse. C'est que...
Oui.
le roi de France est le lieutenant de Dieu.
Absolument, c'est Dieu qui est roi de France. Alors, ce sera donc l'histoire de la triple donation.
Hein, alors, maintenant, nous allons aborder cette merveilleuse histoire de la triple donation, qui est en effet quelque chose qui n'est pas du tout connu. Nous n'avons pas donné la parole à votre comparse Thierry Martin. Donc, qui êtes-vous, Thierry Martin ?
Eh bien, moi, j'ai 57 ans et j'ai un parcours, je dirais, plus politique,
oui,
que, un petit peu équivalent, je dirais, au parcours plus religieux de Louis-Hubert Remy. En fait, donc moi, je suis un ingénieur, un homme d'entreprise, et en même temps, j'ai été pendant un certain temps donc
très engagé
politiquement, et très d'abord, j'ai eu
et pas derrière Monsieur Mélenchon.
Non, ça c'est évident. Donc j'ai eu un parcours d'abord dans l'administration territoriale, dans les plus grandes collectivités locales françaises. Et j'ai été le conseiller du président du Front National pendant très très longtemps. Et en particulier, donc j'ai été l'auteur du programme du Front National en 2001. J'ai été le rédacteur d'un certain nombre de discours, j'ai été son conseiller personnel pour les élections présidentielles de 1995 et de 2002, et c'est moi qui ai rédigé le fameux discours, qui est quand même le sommet de sa carrière, le fameux discours du 1er mai 2002, qu'il a prononcé sur la place de l'Opéra, et qui se terminait par l'appel au Sacré-Cœur. Ensuite, j'ai été ignominieusement chassé donc par l'héritière du trône Eiffel, comme le dit assez justement un de ses rivaux. Et en fait, ça m'a été très bénéfique, très curieusement, extrêmement bénéfique, parce que mais donc maintenant, il y a prescription, donc il y a plus de 10 ans, et je me suis mis à réfléchir. Et à réfléchir sur un certain nombre de choses, et ma réflexion est allée dans deux sens. D'une part, j'ai constaté, au fond, depuis 1789, et plus encore depuis 1877, l'échec systématique, continu, permanent, de toutes les tentatives de restauration, que ce soit des restaurations par le haut, comme MacMahon ou Maréchal Pétain, que ce soit des restaurations, j'irais, par le bas, à travers le combat politique, qui quelquefois est un combat tragique, d'ailleurs, avec des échecs extrêmement graves. Et donc, je me suis posé la question de me dire, mais comment ça se fait que tous ces échecs, en dépit du fait que les idées sont pas mauvaises, sont bonnes, que les hommes sont extrêmement courageux, qu'il y a des sommes terribles, d'efforts, de sacrifices, etc., qui ont été consentis, pourquoi ça marche pas? Et j'avais, ajoutant à cela, ma propre expérience. Puisque, je veux dire, moi, j'ai donné 12 ans de ma vie à la vie politique, à une vie politique extrêmement intense et à des moments extrêmement durs. Je peux vous dire que je me souviendrai toute ma vie de l'entre-deux tours 2002, je peux dire, où les enfants des écoles de Saint-Cloud, je peux le dire aujourd'hui, les professeurs des écoles de Saint-Cloud amenaient les petits bourgeois de Saint-Cloud nous cracher à la figure lorsqu'on sortait des locaux du comité Le Pen président.
Oui, oui,
c'est... Voilà. Et si on avait eu le malheur de leur mettre une claque...
Mais d'ailleurs, je vous dirais franchement que c'est une idée que m'a suggérée d'ailleurs mon époux. Je n'ai jamais compris, puisque à ce moment-là, l'autre concurrent a refusé le dialogue, et donc le dialogue démocratique, c'est-à-dire le débat.
Absolument.
Il n'y avait donc plus démocratie.
Exactement.
Pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen ne s'est pas retiré en disant
nous sommes
en pleine Afrique, c'est pas la peine de jouer à la démocratie, les gars.
Exactement.
Je me retire sous ma tente.
Ce qui aurait démontré que la République était une République, que nous étions dans un État totalitaire sous masque républicain.
Exactement, et là c'était visible, carré.
Ben écoutez, c'est assez amusant, parce qu'en fait c'est ce que implicitement j'ai conseillé, et ça a été totalement rejeté, notamment par la personne en question qui devait lui succéder.
Bon, nous...
Donc ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est la première réflexion.
Non, pourquoi on va dans le mur, ça, c'est...
Pourquoi ces échecs?
Mais ce qui est agréable, c'est que c'est très visible, maintenant. C'est pour ça que vous tombez bien, je trouve, vous tombez à pic, c'est que le mur, il devient de plus en plus grand et de plus en plus haut. Et
de plus en plus évident.
Et de plus en plus évident.
On est dans une impasse.
La crise économique, là, toutes ces petites fourmis qui s'agitent, ces gens de partis qui... Bon, je ne vais pas relire le texte que j'ai déjà lu, mais qui est de Solzhenitsyn, excusez du peu, « Comment réaménager notre Russie
?»
qui est sur le blog, mon blog, annebrassier.fr. Le phénomène de parti, dit-il, parti signifie part, se diviser en parti, c'est se diviser en part, Un parti part du peuple, à qui s'oppose-t-il ? Évidemment, au reste du peuple qui ne l'a pas suivi. Chaque parti se donne de la peine, avant tout pour lui-même, pour ses membres, et non pour la nation entière. L'intérêt national est estampé par des fins particulières. Avant tout ce qui est nécessaire au parti pour être réélu la prochaine fois. Et voilà.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Donc, l'homme a des conceptions, le parti, une idéologie.
Surtout des. J'aggraverai encore le diagnostic, je dirais surtout des intérêts très, très à court terme. Donc, à la suite, si vous voulez, donc, pour revenir à nos moutons, donc, à la suite donc, de cette réflexion sur cette série d'échecs et d'une certaine façon sur mon propre échec à moi, au moins en tant qu'engagé politiquement, et moi je suis d'une famille extrêmement politisée, puisque quand je fais le compte, j'avais déjà un grand-oncle maternel qui était au Camelot du Roi avant 1914, et ça a toujours été dans le même camp, encore une fois. Bon, excusez du peu. Donc, voilà, moi, j'ai commencé à faire de la politique avec mes parents, j'avais pas 10 ans, à l'époque de la campagne Tixier-Villancourt en 65, vous voyez. Donc, je me suis posé la question, et j'ai essayé de réfléchir, si vous voulez, et c'est là que j'ai découvert l'école antilibérale, grâce d'ailleurs à Louis Bérémy, et j'ai compris qu'en fin de compte, la société d'abord fonctionnait d'une certaine façon, que la fameuse phrase de saint Paul, Nisi potestas adeo, c'était pas simplement qu'une formule pour un bouquin oublié.
Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de latin, voilà,
il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, toute autorité vient de Dieu, ce qui n'est évidemment pas totalement le fait.
Restons sur cette phrase, parce qu'on voit que tous ceux qui nous gouvernent n'ont aucun pouvoir.
Voilà, tout à fait.
Aucun. C'est très important. C'est pas cette phrase, cette citation latine, c'est pas une phrase de lettré, dépassée, démodée. C'est, on le voit illustré tous les jours.
Absolument.
Dans tous les pays du monde.
Absolument. Et donc, toute autorité donc vient de Dieu, et donc l'autorité politique ne peut fonctionner en quelque sorte, que ce soit en Azerbaïdjan ou en France, l'autorité politique ne peut fonctionner qu'à partir du moment où elle a, non pas une délégation qui vient du bas, comme l'explique l'abbé Maignan dans un article tout à fait extraordinaire de la revue des revues catholiques des institutions et du droit, donc la souveraineté populaire est une hérésie, mais cette délégation, en fait, elle vient de haut, un petit peu analogue à la délégation de pouvoir qui est donnée au père et à la mère de famille dans la famille. Et en France, cette affaire-là est encore renforcée, si vous voulez, par le fait que la monarchie, la royauté française est une royauté sacrale, donc, et qui est incarnée dans une famille. C'est pas... Et donc, et cette famille a les grâces pour faire fonctionner le pays au service du bien commun, puisque le but de la politique, le but du gouvernement terrestre, le but de la société civile, c'est le bien commun par rapport à la société ecclésiastique qui est le salut éternel.
Je me permets de citer ce qu'il y a dans votre préface, Thierry Martin.
Oui, si
la politique voulez. De Dieu, entre guillemets, consiste dans ce que saint Augustin appelle la paix, qui est la tranquillité dans l'ordre, voilà. À laquelle il faut ajouter la justice, c'est-à-dire que le gouvernement doit diriger la société conformément à la loi évangélique pour le salut du plus grand nombre. Aujourd'hui, les sociétés sont dirigées conformément à une loi antichrétienne pour la damnation du plus grand nombre.
Voilà. Je veux dire, à la limite, on pourrait arrêter l'émission, et d'ailleurs, j'arrêterai mon intervention là, parce que c'est évidemment... Alors ça, c'est un cheminement, encore une fois, c'est un cheminement personnel, qui n'est pas un cheminement facile, parce qu'il a fallu que je mette, si vous permettez l'expression, par-dessus bord un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées préconçues, un certain nombre d'erreurs même de ma part, si vous voulez, et que ça a pu choquer, que ça peut choquer encore, mais là, j'assume aujourd'hui, je veux dire, que ça a pu choquer certains de mes ex-camarades de combat, qui ne comprennent pas, en quelque sorte, mes choix. Mais je suis à peu près certain.
C'est-à-dire que je parle aux auditeurs qui n'auraient pas le bonheur de croire et qui considèrent quelquefois que nous sommes à côté de la plaque. Je reçois certains messages, mais enfin, les banlieues continuent à brûler, les Français sont maltraités. Et qu'est-ce que vous faites ? Rien. Et vous parlez de prière et vous parlez de Dieu. Eh bien, c'est notre façon de lutter, c'est notre action, c'est nous remettre en Dieu.
Et la prière est une action, il ne faut jamais l'oublier.
Et la prière est une action.
C'est l'action
voilà.
Sur le cœur de Dieu qui est beaucoup plus puissante que toutes les politiques humaines.
C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire venir en ce jeudi de l'Ascension. Alors, merci beaucoup Thierry Martin. Vous avez planter le décor. Alors, cette triple donation, Louis Hubert remis, qu'est-ce que c'est ?
Bien, eh bien, ça ne peut pas être une invention de Jeanne d'Arc. Ça lui vient directement du ciel. Il est bon de préciser que les voix ne sont pas simplement des voix, mais ce sont donc trois personnes choisies par la Très Sainte Trinité pour former une jeune fille, une combattante, une guerrière, une martyre et une femme de grande, d'un caractère trempé. Il a fallu 4-5 ans donc pour faire de cette jeune fille de 13 ans à 17 ans donc la sainte que nous aimons. Déjà le 7 mars à Chinon, elle avait demandé à un roi de donner le royaume à Jésus-Christ. Elle avait demandé en même temps deux autres choses, de pardonner à ses ennemis, hein, il n'y a que chez les catholiques qu'on pardonne, hein, j'aime le rappeler, hein, et de recevoir tout le monde pour ne pas faire la bêtise d'Azincourt. Et Charles accepte de donner...
Qu'est-ce que vous appelez la bêtise d'Azincourt ? Parce que vous l'avez déjà dit voilà. Chez Benoît, et je voulais vous poser la question.
La bêtise d'Azincourt, c'est quand les chefs de l'armée royale, les grands aristocrates commandant l'armée royale, ont refusé ce qui s'était passé à Bouvines, c'est-à-dire l'alliance des milices communales. Ils ont dit, mais qu'avons-nous à faire de ces bouquetiquiers ? Et donc, ils ont engagé tout seuls la bataille et ils ont pris une claque exceptionnelle.
Et donc, pratiquement
parce qu'ils n'ont pas fait l'unité des forces populaire, entre guillemets, etc., oui. Autour du principe
royal. Oui, ils étaient des gendarmes, ils estimaient tout seuls
voilà,
pouvoir s'en tirer.
Absolument.
Or, je crois me souvenir que le terrain était boueux, les chevaux absolument. Se sont embourbés, ils oui. sont tombés.
Oui, mais c'était vrai
ils
aussi.
Ils n'ont pas pu se relever.
C'était vrai aussi pour les Anglais.
Oui. Hein,
et donc,
oui, quand il pleut chez vous, il pleut aussi.
Voilà, bien. Mais les Anglais, d'ailleurs, ont dit au soir de la bataille, hein, c'est la volonté de Dieu, c'est cette défaite, quoi, est une vengeance de Dieu. On trouvera la même chose, bien sûr, à Pathé, où il y aura 2000 Anglais morts sur le terrain et 2 ou 3 Français. Oui. À une époque, on combat 1 contre 1. Quoi.
La victoire
donc,
totale.
Bien souvent, oui. Donc, il est évident que les batailles et les victoires sont liées à ce que Dieu veut. Quoi. Bien. Et donc, Jeanne est déçue par la réponse, le refus de Charles de répondre à cette demande. Et justement, au lendemain de Pathé, Aurélie de cette gloire gigantesque a eu des fêtes à Orléans, mais énorme.
C'est vrai, 18 juin. C'est
encore plus importante que les fêtes du mois de mai. Hein. Et elle retrouve donc Charles à Saint-Benoît-sur-Loire parce que nous avons un document qui est donné par le père Théotime de Saint-Justin que cette triple donation s'est faite le 21 juin 1429 à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire. Bon, nous avons fouillé avec mon épouse dans toutes les bibliothèques possibles.
Les chartistes.
Oui, chartistes. Oui, on a fouillé donc, y compris aux archives à Rome, aux archives des franciscains à Rome, où nous avons fouillé dans les documents du père Pie de Langogne, qui était donc le grand historien de la cause, Monseigneur Sabatel. Et nous n'avons rien trouvé malheureusement. Quoi. Bon, mais donc il y a cette référence hein, qui existe hein, donc le 21 juin. Alors en reprenant le parcours de Jeanne, on sait que le 21 juin 1429 à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire, elle était donc à
dans l'abbaye.
Et ça, vous avez trouvé ces indications-là. Vous les avez trouvées dans ces archives de l'abbé Tellière.
Non, mais le père Hérol.
Le père Hérol.
Oui, c'est le père Hérol qui donc.
Qui
alors bon, le premier qui a trouvé ça, hein, c'est un chartiste, hein, Léopold de Lille, hein, qui fait état donc d'une découverte faite à Rome dans un manuscrit que nous avons pu consulter, hein, où est raconté donc tous les détails de cette triple donation. Bien. Alors bien sûr, nous cherchons, et mon épouse est en ce moment même aux Archives nationales à refouiller un fond que quelqu'un nous a dit, ça pourrait peut-être chercher là-dedans. Bon, elle est passée hier toute la journée, elle a passé, je l'avais
entre parenthèses, les archives partout dans le monde sont encore à fouiller. C'est une archéologique extraordinaire.
Oui, mais là ici,
la preuve ce que Reynald de Secher vient de trouver.
Il a trouvé les ordres
d'extermination.
Oui, il mangeait chez moi, donc juste après avoir trouvé, avant d'avoir des questions livres. C'était extraordinaire.
Que personne n'était allé.
Oui, tout à fait. Et donc, on cherche encore. On est allé jusqu'en Écosse parce qu'on avait une piste. Tout l'entourage de Jeanne, sa garde personnelle était des Écossais. Bon, on a trouvé ces détails très importants. Là aussi, c'était cherché quand même. Enfin, on avait une raison très précise, et qui a été donc sans effet. Bien. Alors, donc,
l'abbé Hérol a laissé.
Ah, bien, l'abbé Hérol a écrit plus de 4000 pages sur Jeanne d'Arc. C'est le grand, grand historien. Hein, je suis déçu d'ailleurs que.
Il a été celui qui est à l'origine, qui a travaillé pour la réhabilitation.
Pour la béatification. Toute la béatification. Donc, on a consulté tous les travaux, donc, puisqu'on a pu passer 15 jours sur le procès, l'original, bien sûr, du procès de béatification et de canonisation, donc, aux archives secrètes au Vatican. Le père Hérol, d'ailleurs, écrit à un moment un détail très intéressant disant le message de Jeanne sera complètement transformé. Et il dit qu'il va être récupéré par des tas de gens qui n'ont rien à voir. Et en particulier, il faut savoir que Jeanne est à nous, les catholiques. Saint Pie X dit Jeanne est la nôtre, est nôtre. Hein. Okay. Et actuellement, donc, on essaye d'en faire quelque chose pour la France. Mais sans cet aspect catholique, on ne peut pas comprendre
oui,
Jeanne.
Bien sûr. Bien.
Alors donc, le 21 juin, auréolée de cette victoire, elle dit à Charles, sire, Me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Elle est donc déjà plus maligne que le 7 mars, etc. Le roi hésite. Puis consent. Sire, dit-elle, donnez-moi votre royaume. Le roi, stupéfait, hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille, Jeanne, lui répond-il, je vous donne mon royaume. Et là, donc, on est obligé de préciser que Jeanne est reine de France. Oui. Une parole de roi est sacrée. Et Jeanne, reine de France, avec mon épouse, nous avons fait un certain nombre de réflexions importantes sur cette triple damnation qui n'est jamais, qui est connue de tous les historiens. Hein.
Et continuez ce texte voilà. Qui est magnifique.
Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, il dit à Charles, « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien, ce qui est exact. » Puis aussitôt après, très grave, et s'adressant au secrétaire, donc elle parle en reine, elle est reine de France, elle est très grave, et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Et donc, c'est cette dernière partie qui doit retenir absolument notre attention. C'est Dieu qui choisit le gouvernant en France. Oui. Ce n'est pas le peuple. Oui, oui, oui. Et nous n'en sortirons pas tant que nous n'aurons pas compris cela. Et nous n'en sortirons pas tant que nous n'aurons pas demandé à Dieu, à supplier, comme dit le père de Clorivière. J'ai redécouvert le manuscrit, donc, des 3600 pages du père de Clorivière sur l'Apocalypse. Ces 3600 pages, donc, du père de Clorivière viennent d'être tapées, 2 ans et demi pour taper les 3600 pages. Mmh. Dans ces 3600 pages, vous avez des choses extraordinaires, puisque le père de Clorivière, en 1802, écrit et annonce l'effondrement de l'Église par l'éclair. Hein? Ensuite, il annonce donc que nous n'en sortirons que par, ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que dit Sainte Bernadette, ce sont les laïcs qui sauveront l'Église. J'y peux rien, mais on est obligé de le constater. Hein, on constate depuis donc 50 années que les clercs nous trompent régulièrement. Nous qui sommes tellement attachés à tous ces clercs, une grande partie. Hein, le résultat est quand
en
même catastrophique.
Celle qui fait le plus de bruit.
Voilà, absolument. Voilà. Et donc, c'est tirons donc cette conclusion que quelle que soit donc l'action que l'on fasse en dehors de ce plan voulu par Dieu et ce plan qui doit être notre méditation donc sur le problème du gouvernant. Ah, le problème n'est pas le problème de l'élite. C'est là où le pour qu'il règne de Jean Housset est insuffisant. Jean Housset voulait faire les 1000. Mais il faut avant tout la locomotive. Si vous avez 1000 wagons, hein, sans la locomotive, ça sert à rien. Oui. Bon, former des cadres.
Puis j'ai envie de dire, et ça je l'ai vu dans le film de Jeanne d'Arc, pas Jeanne captive, celui d'avant.
De Rivette, non?
Non.
Les batailles de Rivette?
Non.
Qui est un film remarquable.
Le film qui a eu il y a 2 ans, qui est passé en même temps que celui avec la grande l'actrice serbe Jojovic.
Non, je connais pas.
Ce film montre que Jeanne part.
Oui.
Et tout le monde la suit.
Tout le monde la suit. En trois mois, la France.
Mais c'est pour
tout est renversé en trois mois.
Pour illustrer votre propos, c'est pas des hommes qui se réunissent et qui attendent. Non, non. C'est un homme qui, qui
il faut
vient,
une personne,
une femme, et les autres le suivent.
Et le règne du Sacré-Cœur. Le règne du Sacré-Cœur est absolument promis. Il est exact que pour ce règne du Sacré-Cœur, il fera des grands chrétiens. Et actuellement, donc, les chrétiens sont très éprouvés, et éprouvés dans les trois puissances de l'âme, mémoire, intelligence, volonté. C'est pour ça qu'on a ressorti, donc, dans notre livre, le dénouement de la persécution de l'abbé Auguste Lehmann, qui explique quand ça se fera et comment ça se fera. Parce qu'il y a une espérance sûre.
Vous donnez beaucoup de documents. Documents extraordinaires.
Un thésaurus.
Que nous connaissons absolument.
C'est vraiment ce qu'on a,
d'original.
Je veux dire, c'est la proposition, c'est ce qui nous a rapprochés, enfin, c'est ce qui m'a rapproché, ce qui m'a fait travailler, donc, avec monsieur.
C'est pédagogique. Remy. Pédagogique.
J'ai absolument voulu, et j'ai proposé d'ailleurs à monsieur et madame Remy, donc, cette structure où on a une première partie. J'insiste beaucoup parce que c'est vraiment un livre de science autant qu'un livre de foi, autant un livre de foi qu'un livre de science. Et l'un n'est pas du tout c'est pas contradictoire, bien au contraire. Il y a une première partie qui est une partie démonstrative, historique, et l'histoire c'est une science. Oui. Et il y a une deuxième partie donc de thésaurus qui constitue en quelque sorte, parce qu'on est quand même sur une matière difficile, on est avec des idées extrêmement nouvelles, parce que dire c'est Dieu qui choisit le gouvernant...
À la fois nouvelle et très ancienne.
Très ancienne,
oui,
1300 ans d'existence.
Mais nouvelle pour les gens qui nous écoutent.
Nouvelle
pour
absolument.
Les gens, extrêmement nouvelle.
En 2012,
même,
oui.
Quasiment provocateur même, d'une certaine façon. Extrêmement dérangeant pour les idées reçues de plein de gens. Voilà, etc. Et donc, il y a à la fois cette première partie donc de démonstration, et cette deuxième partie dite de thésaurus, et thésaurus ça veut dire trésor, avec des textes qui à la fois font preuve et qui en même temps donc sont portés à la connaissance du public, et ça va très très loin, par exemple, parce que Louis Hubert donc parle du père Hérold, donc qui est vraiment le grand spécialiste de Jeanne d'Arc. Et bien nous publions partiellement le livre de famille, c'est-à-dire que ce sont des archives privées qui sont mises à la disposition du public, et c'est là qu'on voit vraiment ça, si vous voulez, le livre des remis, c'est vraiment le contre-dictionnaire contamine Bouzy et Larry, on peut le dire.
Je suis tombée
aussi sur... Il y a autant de sérieux et de travail derrière que devant, que derrière l'autre.
Bien sûr.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
J'ai vu aussi le texte de Monseigneur de Lassus.
Ah oui, absolument. C'est un des grands maîtres antilibéraux que j'ai complètement redécouvert. Je suis à l'origine de la découverte intégrale de Monseigneur de Lassus.
Alors, parlez-nous de votre, cette maison d'édition Saint-Remy et de cette école antilibérale.
Ah bien, alors ça c'est 40 ans
de jeunes éditeurs.
Voilà. Bon, l'école antilibérale, donc... Le grand maître, c'est le cardinal Pie au départ, donc dans son livre sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ.
La royauté sociale
de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, le cardinal Pie, d'ailleurs, nous citons l'apologie. Enfin, le.
Quelle date, quel cardinal Pie?
En 1830, 1870 et quelques, etc. C'est-à-dire 1880. Bon, il y a deux grands évêques au 19e. La première partie du 19e, c'est le cardinal Gousset. Et la deuxième partie, c'est le cardinal Pie. Bon, il se complète énormément. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le cardinal Gousset. C'est un homme extraordinaire et passionnant. Quoi. Bon. Alors, autour, donc, au moment où l'amener commence à réfléchir sur la Révolution française et donc faire ses choix qui sont mauvais, il est entouré d'un certain nombre de personnes, en particulier de Rohrbacher et le cardinal Gerbet. Et très vite se joint à eux... l'abbé Pie, Don Guéranger, je suis en train de chercher un nom que je connais tellement par cœur, bien sûr, quoi, et
qui, je suis très fatigué en ce moment.
Oui, bon, qui m'échappe. Et alors après, donc, s'engendre autour d'une quarantaine d'auteurs que, donc, j'ai redécouvert partout, que ce soit les Monseigneurs Fèvre, les Monseigneurs Juin, les Monseigneurs Gaume, tous ces gens-là qui vont écrire des choses qui sont tellement remarquables quand on les compare, donc, aux auteurs habituels. Bon, par exemple, le père de Clérissac, c'est un second couteau par rapport à Monseigneur de Lassus. Ça n'a rien à voir. Monseigneur de Lassus le dépasse, mais énormément, quoi. Bon, c'est vraiment la grande référence, Monseigneur de Lassus. Et donc, alors, j'ai recherché donc tous ces auteurs. J'ai retrouvé tous les livres originaux sur la question. Les Abbé Lehmann, par exemple, ont fait des travaux extraordinaires, quoi. J'ai à peu près un millier de livres des auteurs antilibéraux. Je les ai tous lus, bien sûr, parce que
Vous les publiez, vous en publiez.
Alors, on fait donc
dans cette maison d'édition.
Bon, donc les
c'est
éditions.
C'est peut-être le moment de parler de rappeler le titre de votre livre, La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc. Louis Hubert Remy, Marie-Christine Remy et Thierry Martin. C'est publié aux Amis du Christ Roi de France. Et vous pouvez trouver ce livre à Chiray, à Montreuil.
À Chiray-Montreuil.
Et
d'abord chez nous, hein, aux ACRF.
Et voilà. Et
boîte postale 2.
ACRF, Amis du Christ Roi de France, boîte postale 2. 44 140 Aigrefeuille.
Voilà.
44 140 Aigrefeuille. Et ils peuvent aller sur Internet. Vous avez un très beau site. C'est a-c-r-f.com. Donc, Amis du Christ Roi de France, tout simplement.
Voilà. On trouve aussi le livre à la Duquesne Diffusion, bien sûr. À la librairie Notre-Dame de France, rue Monge, chez Teki. Et à la librairie.
Chez Teki aussi.
Chez Teki aussi, oui.
À la librairie. C'est place.
Rue de Mézières.
Rue de Mézières, en face de la procure.
Et chez Anne-Charlotte, tout le monde connaît Anne-Charlotte lundi, bien sûr.
Livre en famille.
Voilà, pour les familles, je ne sais pas. Voilà, c'est parce que si je
cite. Sur Internet.
Voilà, absolument.
Si on ne cite pas Madame Lundi, alors.
Oui, c'est pas bien du tout.
Voilà, voilà. Bon, le livre fait 400 pages. Pour les lecteurs de Radio Courtoisie, j'ai fait un énorme sacrifice, hein, si me le commande. Je l'envoie franco à 20 euros.
Hein. 20 euros, et je peux vous dire que c'est un livre magnifique. Ouais. C'est un livre
avec beaucoup de gravures.
Avec une couverture, comment est-ce qu'on appelle cette couverture?
Avec rabat.
Avec rabat et glacé.
Et voilà, absolument.
Glacé. Oui. Il y a 360.
J'aurais quand même voulu souligner un autre détail très très important, parce que c'est une erreur très partagée dans nos milieux. Jeanne d'Arc n'a jamais dit... Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire.
Absolument.
Ah oui?
Jeanne d'Arc a dit...
En nom Dieu,
les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et donc, chaque fois dans nos milieux, il faut faire une bêtise, on supprime le « en nom Dieu », et là, il faut absolument réfléchir quel est le « en nom Dieu ». Et alors, en plus, ce sont les hommes d'armes qui doivent batailler, pas les femmes et les enfants.
Oui.
La bagarre, une bagarre aussi importante, ce sont les hommes d'armes.
Oui, c'est pas les partisans.
Et là, on emmène
c'est pas les FTP.
Voilà.
Non, mais soyez indulgents, en nom Dieu, c'est toute une démarche.
Absolument.
Et tout le monde n'est pas
et donc, c'est
en
message.
Mesure de commencer sa journée en nom Dieu.
Ah, oui.
C'est ça, c'est toute la conversion qu'il y a à faire.
Voilà.
Et c'est toute la difficulté.
Oui. Et Jeanne dira toujours, messieurs.
Ça s'appelle se remettre dans l'ordre.
Oui, ça s'appelle.
Et messire Dieu, premier servi, quoi. C'est le grand message de Jeanne, quoi, continuellement.
C'est sûr, mais comme vous le savez, on est tellement dans une société qui fait le contraire, du matin au soir.
C'est pour ça qu'il faut donc se couper de... C'est pour ça que j'ai mis la bataille préliminaire de Jean Vaquier en finale, où Jean Vaquier, qui est donc... m'honore d'être un des deux héritiers de Jean Vaquier, et était très lié avec Jean Vaquier. C'est d'ailleurs mon épouse qui a tapé la première, donc le texte sur la bataille préliminaire, qui a tapé le premier texte sur la bataille préliminaire. Et dans cette bataille préliminaire, est bien précisé ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et donc j'incite les gens à bien lire tout cela.
Nous sommes arrivés très vite à la fin de cette émission. Voilà, chers auditeurs, la vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc, les Amis du Christ Roi de France... Louis-Henri et Marie-Christine Remy, Thierry Martin.
Et Hubert. Hubert Remy et Marie-Christine Remy et Thierry Martin.
Voilà.
Je voudrais finir en citant la fameuse phrase de Pie XII.
Allez-y.
Qui n'est pas très longue, mais qui est tellement extraordinaire. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannière déployée, pour sauver la patrie et sauver la foi.
Merci beaucoup, c'était très très beau. Et j'aimerais que nous terminions cette belle émission par notre hymne sonné fanfare triomphale. Au revoir, chers auditeurs, à jeudi prochain.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour « Trésors en poche » d'Anne Brassier. Émission préenregistrée le 11 mai 2012, diffusée pour la première fois jeudi 17 mai 2012 de 10h45 à 11h45. Elle a été réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs.